France Musique. À l'aube du japonisme. C'est aux premières expositions universelles que se dévoile peu à peu le Japon. Les expositions universelles sont la vitrine technologique, industrielle et artistique d'un pays, et elles sont ouvertes sur le monde entier. Le 19e siècle est le siècle du progrès, le siècle de l'avenir, le siècle des utopies, et les expositions universelles en sont l'expression. Chaque pays est libre d'exposer ce que bon lui semble dans un pavillon construit pour l'occasion. Des milliers de visiteurs y affluent, néophytes et amateurs, pour découvrir toutes les merveilles du monde. À la première exposition universelle de Londres de 1851, un seul objet japonais y est présenté. À l'exposition universelle des produits de l'industrie de toutes les nations à New York en 1853, le Japon est alors représenté par les envois de Guillaume III, roi de Hollande, mais aussi par des objets manufacturés et des monnaies provenant d'une jonque japonaise naufragée. Paris organise sa première exposition universelle en 1855, et c'est encore une fois par le prisme des envois hollandais que l'on découvre le Japon. La description fabuleuse que Marco Polo fait du Japon dans son Devisement du monde alimente la fascination des Occidentaux durant toute la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est la Hollande qui initie en 1609 les liaisons commerciales avec le Japon. Seuls les Hollandais, peu soupçonnés de prosélytisme religieux, sont admis à séjourner en terre japonaise, sur un minuscule îlot jouxtant le port de Nagasaki, Dejima. De là, les savants au service de la Compagnie hollandaise des Indes étudient la civilisation japonaise. L'influence de leurs écrits se laisse sentir sur les philosophes des Lumières, pour lesquels le Japon sert de contre-exemple. Montesquieu, Voltaire et Diderot n'hésitent pas à saluer l'île qui s'est fermée au monde afin d'échapper à l'emprise néfaste de l'Église et de l'Occident. Jusqu'en 1850, au moment de la réouverture du pays, le Japon reste l'objet d'imaginations exotiques. Puis la Hollande tombe sous le joug de la France et le commerce marque un temps d'arrêt à Dejima. Les Hollandais donnent alors des cours de français aux interprètes japonais à Nagasaki. Ils évoquent un certain Napoléon, ses victoires incessantes, sa chute. Grâce à la navigation à vapeur, l'Europe industrielle et les États-Unis songent à reprendre pied au Japon. En 1854, face au noir vaisseau de l'amiral Perry, le Japon s'ouvre. Les vraies relations débutent le 9 octobre 1858 à partir de la signature à Edo du traité de paix, d'amitié et de commerce. C'est le début de la circulation de nombreux produits, d'objets d'art de toutes sortes, tels les estampes d'ukiyo-e qui révèlent à Paris la magie des îles nippones. Les Français qui arrivent au Japon dans les années 1860 séjournent comme les autres étrangers dans les ports, notamment celui de Yokohama. Pour sauver leur industrie frappée par la maladie du ver à soie, les soyeux de la région de Lyon viennent y chercher les graines locales. Ils nouent les premiers échanges commerciaux qui sauvent la sériculture française. Lyon devient alors tributaire de la soie asiatique, surtout nippone, mais aussi des vaisseaux britanniques qui la lui acheminent via Londres. Mais elle conserve son premier rang mondial en soierie. Une nouvelle route de la soie Yokohama-Lyon s'ouvre en 1859. C'est Léon Roche, diplomate expérimenté, originaire de Grenoble, qui est envoyé par Napoléon III pour négocier en 1864 avec le shogunat. Roche obtient alors l'ouverture du chantier naval de Yokosuka par des ingénieurs français. Il crée la mission militaire française de coopération, installe le collège français de Yokohama et conseille le dernier shogun, Yoshinobu, sur la réforme de l'administration. Le shogunat demande alors à la France d'apporter en contrepartie ses compétences scientifiques, techniques et industrielles, ce qu'accepte Napoléon III. Des canons sont tout d'abord envoyés à la demande du Japon et la première aciérie moderne au Japon est installée à Yokohama. On parle alors de fil de soie contre fil d'acier. Un village français s'installe à Yokosuka et on assiste pendant 10 ans à un réel transfert de technologie. Industrie lourde, industrie chimique, industrie du bois. Pour célébrer cette ouverture des échanges commerciaux, le shogun envoie en cadeau à Napoléon III quelques 1500 cartons de graines de verre à soie. En contrepartie, Napoléon III envoie en juillet 1867 25 chevaux arabes pour régénérer la race des petits chevaux japonais. Les quatre expositions universelles qui se tiennent à Paris entre 1867 et 1900 offrent aux millions de visiteurs qui s'y pressent une image vivante du Japon. Le pays du soleil levant est à chaque fois représenté par les envois d'un gouvernement nippon de plus en plus conscient des enjeux économiques et diplomatiques liés à son image en Occident. Dans un cadre tenant à la fois du musée et de la foire, ces expositions universelles contribuent auprès d'un public très large à faire découvrir peu à peu les arts décoratifs et l'estampe, la peinture et la sculpture du Japon, des temps modernes à des périodes de plus en plus reculées de son histoire. Le Japon dévoile alors plus d'un millier d'objets et d'œuvres, des trésors de lacs, peintures sur soie, porcelaines, sculptures, gravures. Et les fameuses estampes de l'ukiyo-e, ou images flottantes, que le peintre américain Whistler découvre lors de l'exposition universelle organisée par l'Angleterre en 1862. Magie d'Asie qu'il restitue dans ses nocturnes en bleu et or, puis dans l'écran doré, ou encore la princesse au pays de la porcelaine. Ces images du monde flottant, dont Van Gogh, Monet ou Baudelaire sauront s'émouvoir. En 1868, le Japon a un nouvel empereur. Débute alors l'ère Meiji qui s'achève en 1912. Le Japon sort de 2 siècles et demi d'isolement quasi total. Les liens diplomatiques et commerciaux sont renoués et les produits nippons déferlent en Occident. Partout à Paris, on peut trouver, dans les échoppes des quais de Seine et alentour, ces gravures sur bois du bout du monde, aux couleurs vives, imprimées sur papier végétal ou papier crépon, popularisé dans l'archipel nippon dès le XVIIe siècle. Dans les grands magasins, le printemps ou le bon marché, la mode s'empare bientôt du goût extrême oriental. On s'enflamme pour les ombrelles, les peignes en écailles ou les éventails. Les femmes troquent leurs tenues d'intérieur pour des kimonos en soie précieuse. On les retrouve prenant la pose en geisha occidentale dans les tableaux de Whistler, de Denitis ou de Tissot. Deux marchands parisiens, Siegfried Bing et le japonais Hayashi Tadamasa, se spécialisent dans l'estampe de qualité, celle du XVIIIe siècle. Chez Bing, dans le 9e arrondissement, on croise des habitués. Paul Signac, Degas, Pissarro ou Manet sont penchés sur les catalogues et compulsent des albums de feuilles anciennes. Les œuvres de Hiroshige, Okuzai et Utamaro sont les plus recherchées. Les collections de Monet ou de Caillebotte totaliseront plus de 200 estampes chacune. Les estampes japonaises font aussi connaître aux Européens certains instruments de musique japonais. Les gravures venues du pays du soleil levant constituent pour eux un excellent outil pour découvrir les mœurs du pays et certains objets traditionnels. À partir de 1878, à chaque exposition universelle de Paris, les Français découvrent davantage ces instruments grâce aux troupes de théâtre et de danse venues spécialement du Japon pour l'occasion et accompagnées de leurs musiciens. Lors de l'exposition universelle de 1900, la découverte de la danseuse japonaise Sada Yako bouleverse Gide, Picasso, Rodin et bien d'autres. Sous les traits d'une femme, au sacrilège, le kabuki s'aventure sur les scènes occidentales aux côtés du no, les deux formes ancestrales du théâtre japonais. Un loup gris tacheté, un couple d'acrobates enlacés, une pieuvre, un faune sur un lit de feuilles, une cigale, des poissons, des nèfles et des lièvres aux yeux d'ambre. Les netsuke, précieuses et mystérieuses miniatures autrefois cachées sous le kimono, feront-ils encore rêver les visiteurs de l'exposition universelle de 2025 ?
À réécouter sur francemusique.fr.